Natsume Soseki, divers extraits de Petits contes de printemps. Jour de l'an. Après avoir avalé un bol de zoni, je me suis retirée dans mon bureau. Peu après, trois ou quatre visiteurs sont arrivés. Tous sont jeunes. L'un d'eux porte une redingote. Ce n'est probablement pas son vêtement de tous les jours, car ses gestes sont empruntés. On sent qu'il cherche à ménager le tissu de molleton. Les autres sont comme d'habitude vêtus à la japonaise, sans la moindre concession pour le nouvel an. Preuve de l'étonnement général, tout le monde se met à pousser des « oh » et des « ah » à la vue de la redingote. Moi aussi, en dernier, j'ai lancé un « oh » surpris et admiratif. La redingote a sorti un mouchoir blanc et s'est essuyé la figure, sans nécessité apparente. Ensuite, il a bu coup sur coup plusieurs coupelles de liqueur, tandis que ses compagnons ne demeuraient pas en reste et s'activaient avec leurs baguettes autour des petites tables servies à leur intention. Sur ces entrefaites, Kyoshi arriva à son tour. Il s'était fait déposer en voiture. Tenue traditionnelle de cérémonie, haori noir et kimono noir aux armes de sa famille. On n'en attendait pas moins de lui. Je me doutais bien que la nécessité de posséder un tel costume lui venait de ce qu'il pratiquait le no, mais je lui posais tout de même la question. « En effet, » répondit-il. Puis, il me proposa de chanter un no. Je répondis que je n'y voyais pas d'inconvénient. Nous avons alors récité ensemble une pièce qui s'intitule « Toboku ». Il y avait fort longtemps que j'avais appris ce morceau, et je ne l'avais pour ainsi dire jamais travaillé, si bien que quelques passages étaient pour le moins incertains. De surcroît, je ne m'attendais pas à ce que ma voix sonne si étrangement. Quand le morceau fut enfin achevé, les remarques fusèrent. Comme s'ils s'étaient donné le mot, les jeunes gens qui nous avaient écoutés s'accordèrent pour dire que j'avais été franchement mauvais. La redingote, notamment, déclara que j'avais une voix chevrotante. Aucun d'entre eux n'entendait goutte au récitatif de nos, et je savais bien qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils mesurent à leur juste valeur les qualités de Kyoshi, non plus que mes défauts, d'ailleurs. Pourtant, maintenant que j'étais leur cible, il me fallait bien admettre que, amateur ou non, leur critique n'était pas sans fondement. Je ne me sentis pas le courage de les envoyer promener. Kyoshi se mit alors à raconter qu'il avait depuis peu commencé à jouer du tambourin. Ceux-là même, qui ignoraient les rudiments les plus élémentaires du récitatif de no, insistèrent à qui mieux mieux pour qu'il montre ses talents. « Je veux bien, mais... » Et se tournant vers moi, Kyoshi me demanda de me charger du récitatif. Totalement ignorant en matière d'accompagnement, je me sentais gênée pour accepter, mais en même temps, ma curiosité se trouvait stimulée par la nouveauté. « C'est bon, je chanterai », ai-je répondu. Kyoshi envoya le pousse-pousse chercher l'instrument. Quand on l'eut déposé, je fis apporter de la cuisine un petit fourneau, et la peau du tambourin fut exposée à la chaleur des braises. Tout le monde regardait œuvrer Kyoshi avec des yeux interrogateurs. Pour ma part, c'était la façon d'exposer au feu l'instrument qui me plongeait dans l'étonnement. Je demandais avec inquiétude à Kyoshi si l'opération se passait comme il le voulait. Tout en répondant affirmativement, il tapota la peau tendue de l'instrument. Il en sortit un son passablement beau. Déclarant que c'était suffisant, Kyoshi écarta la chaufferette et entreprit de serrer la cordelière. Il se dégageait de cet homme revêtu d'un kimono noir à blason et dont les doigts s'affairaient sur les nœuds rouges, une élégance raffinée, sans que je puisse dire exactement pourquoi. Cette fois, l'admiration se lisait dans tous les regards. Bientôt, Kyoshi ôta son haori, puis il s'empara du tambourin. Je le priais d'attendre un peu avant de commencer à jouer car je n'avais pas la moindre idée du moment où il allait frapper sur son instrument et je voulais éclaircir certains détails. Kyoshi m'expliqua soigneusement qu'à tel et tel moment, il émettrait un cri pour souligner le rythme. Là, il frapperait de telle manière sur son tambourin et je n'aurais qu'à me lancer. J'avais du mal à suivre ses explications. Cependant, si j'attendais pour m'y mettre d'avoir tout compris, on en aurait pour 2 ou 3 heures. Alors, à contre-cœur, j'ai déclaré que j'étais prêt et j'ai entonné le morceau principal de Hagoromo. Parvenu au milieu du vers, la brume printanière s'est levée, je me rendis compte que ma voix manquait d'intensité. Je me pris à regretter d'avoir accepté. Mon chant n'allait-il pas se réduire à un murmure ? En même temps, j'étais conscient que si je me mettais brusquement à forcer ma voix au beau milieu du passage, l'équilibre de l'ensemble serait détruit. Et je continuais, en suivant les indications pour le moins floues du livret. C'est alors que Kyoshi poussa un cri puissant et frappa un coup sec sur le tambourin. Je ne m'attendais pas à ce que Kyoshi attaque avec une telle vigueur. J'étais d'autant plus surpris que je croyais que les cris qui servent dans le no à souligner le rythme étaient toujours émis d'une belle voix pleine. Mais son appel faisait vibrer mes tympans, créant presque l'illusion que sa vie même était en jeu. Bon an, mal an, mon récitatif suivit 2 ou 3 fois la cadence marquée par le cri d'accompagnement. Au moment où enfin la voix perdait de son intensité, Kyoshi poussa à nouveau une sorte de hurlement me prenant de court. Chaque fois que sa voix couvrait la mienne, celle-ci se faisait de plus en plus hésitante et elle finit par devenir imperceptible. Au bout d'un moment, le public commença à étouffer ses rires. Dans mon fort intérieur, je trouvais la scène de plus en plus absurde. Alors, la redingote se leva et éclata de rire. Entraînée à mon tour, je me mis à pouffer. J'eus ensuite à essuyer les critiques de mes hôtes. Parmi eux, c'est la redingote qui faisait preuve de la plus grande ironie. Un léger sourire aux lèvres, Kyoshi ne put faire autrement que de chanter lui-même en s'accompagnant de son tambourin, ce dont il se tira fort bien. Un peu plus tard, disant qu'il avait d'autres visites à rendre, il reprit place dans la voiture qui l'attendait et il partit. Après son départ, les jeunes gens continuèrent à me lancer leurs quolibets. Jusqu'à ma femme, qui se mit à l'unisson et qui, après avoir dénigré ainsi son propre époux, se mit à encenser Kyoshi en disant « Quand Monsieur Takahama frappait sur son tambourin, les manches de son kimono de dessous voltigeaient et elles étaient d'une bien jolie couleur. » La redingote acquiesça immédiatement. Pour ma part, tant la nuance des manches du kimono de Kyoshi que leurs ondulations pendant qu'il jouait m'ont laissé totalement froid. La tombe du chat. Depuis notre installation à Waseda, le chat s'est mis à dépérir à vue d'œil. Il ne montre pas la moindre velléité de jouer avec les enfants. Quand le soleil chauffe la véranda, c'est là qu'il dort. Les pattes de devant allongées bien droit, il pose dessus son museau carré et reste là, indéfiniment, sans un mouvement, les yeux fixés sur les plantations du jardin. Les enfants ont beau s'agiter autour de lui, ils les ignorent. Quant à eux, ils ont renoncé dès le début à s'occuper de lui. Sous prétexte qu'ils ne peuvent rien en tirer comme compagnon de jeu, c'est de même qu'ils le laissent tranquille. Mais ce n'est pas seulement les enfants qu'il a cessé d'intéresser. La servante aussi se contente de lui mettre une assiette dans un coin de la cuisine 3 fois par jour. En dehors de cela, elle ne s'occupe pour ainsi dire pas de lui. En plus, ce qu'on lui donne à manger est la plupart du temps englouti par un gros chat du voisinage au pelage blanc, noir et marron. Mais l'intéressé ne semble pas vouloir se mettre en colère. Je ne l'ai jamais vu se battre. Simplement, il dort dans une parfaite immobilité. Même quand il est couché, on sent qu'il n'a pas la moindre marge. Il ne s'est pas allongé à son aise pour pouvoir s'étirer dans l'angle du soleil, non. C'est seulement que, pour lui, il n'y a pas lieu de remuer. Mais je m'aperçois que la description est insuffisante. Disons qu'il donne l'impression d'avoir dépassé les limites de l'indolence. Oui, il doit se dire que s'il est triste de rester sans bouger, il se sentirait encore plus triste à l'idée de faire un mouvement. Et il supporte donc, il endure avec patience. On a l'impression que ses yeux sont fixés sur les plantations du jardin, mais la conscience des feuilles des arbres ou de la forme des troncs ne l'a sans doute jamais habité. Une fois pour toutes, il a posé ses prunelles jaunes, vertes sur un point. De même que son existence n'a pas été reconnue par mes enfants, de même il ne reconnaît pas l'existence du monde. Malgré tout, il lui arrive, de temps en temps, d'aller dehors, comme s'il avait quelque chose à faire. Il est alors pourchassé par le gros matou du voisinage. Et comme il en a peur, il saute d'un bond sur la véranda, traverse en le déchirant un des chogis qui servent de cloison et se réfugie sur l'irori. C'est seulement dans ces moments que la maisonnée s'aperçoit de son existence. Quant au chat, c'est probablement la seule occasion pour lui d'avoir pleinement conscience qu'il existe. À force de répéter ses expériences, les poils de la longue queue du chat ont fini par se clairsemer. Au début, cela faisait des trous par endroits. Plus tard, il perdait tellement ses poils qu'on voyait la peau toute rouge, et cela faisait pitié à voir. Il semblait à bout de force, et il se léchait sans arrêt les endroits sensibles en se roulant en boule. « Dis donc, tu ne crois pas que le chat a quelque chose ?» demandai-je à ma femme. « Oui, c'est vrai, mais que veux-tu ? C'est certainement lâche, » répondait ma femme avec indifférence. Je laissais donc les choses en l'état, sans plus m'en inquiéter. Alors, au bout de quelques temps, le chat se mit à rendre. Son gosier était traversé par d'énormes vagues et il en sortait des sons douloureux qui n'étaient ni un éternuement ni un hoquet. Il avait l'air de souffrir et pourtant, dès qu'on l'apercevait en proie à une crise, on le jetait dehors malgré tout. Faute de quoi, il salissait sans retenue les tatamis ou la literie. Un coussin en soie qu'on avait disposé à l'intention d'un visiteur fut ainsi souillé à cause de lui. C'est ennuyeux à la fin, il faut faire quelque chose, il doit avoir un dérangement de l'intestin ou de l'estomac. Tu devrais essayer de lui donner du hautane dilué dans un peu d'eau. Ma femme ne répliqua rien. Deux ou trois jours plus tard, je lui demandai si elle avait fait prendre au chat la poudre en question. J'ai bien essayé, mais il garde obstinément la bouche fermée, répondit-elle. Puis elle expliqua. Il vomit quand on lui donne des arêtes. Eh bien, il ne faut plus lui en donner alors. Je continuai ma lecture tout en réprimant ma femme avec rudesse. Quand le chat ne vomissait pas, il dormait paisiblement, comme à son habitude. Les derniers temps, il se ratatinait, et comme si son seul appui était la véranda qui soutenait son poids, il se pelotonnait sur lui-même afin de réduire au maximum la longueur de son corps. Son regard avait changé imperceptiblement. Au début, un peu comme les yeux qui, à force de fixer un point au loin, finissent par se perdre dans le vague. Son regard était empreint d'une sorte de sérénité tandis qu'il restait immobile, mais peu à peu, il s'était modifié de manière inquiétante. En même temps, l'iris devenait de plus en plus trouble. Son regard était pareil à la tombée du jour qu'un faible éclair traverse d'une lueur. Pourtant, je ne levais pas le petit doigt. Ma femme non plus, semble-t-il, ne se souciait nullement de lui. Ne parlons pas des enfants qui avaient oublié jusqu'à son existence. Un soir, alors qu'il était couché sur la literie des enfants, le chat poussa un gémissement qui ressemblait à celui qu'il faisait entendre quand on cherchait à lui retirer de la gueule un poisson dont il avait réussi à s'emparer. Je fus le seul à ce moment à y prendre garde et à m'en inquiéter. Les enfants dormaient paisiblement. Ma femme était absorbée par ses travaux d'aiguille. L'instant d'après, le chat poussa un nouveau gémissement. Ma femme finit par poser son aiguille. Je dis « Qu'est-ce qu'il a ? Tu ne vois pas qu'il se mette à mordre les enfants, je ne sais pas moi, la tête par exemple ?» Penses-tu ? Et ma femme se remit à coudre les manches d'un kimono de dessous. Le chat continuait à pousser de temps à autre des gémissements. Le lendemain, il grimpa sur le rebord de l'Irori et n'en bougea plus de la journée, sans s'arrêter de miauler d'une voix plaintive. Il semblait être importuné quand on servait du thé ou qu'on prenait la bouilloire. Le soir venu, ma femme et moi avions totalement oublié le chat. En vérité, c'est ce soir-là qu'il est mort. Au matin, quand la servante alla chercher du bois dans la pantie qui se trouve derrière la maison, elle le découvrit sur un vieux fourneau en terre, déjà tout raide. Ma femme voulut voir le cadavre du chat et elle alla exprès à la remise. Elle, qui n'avait montré que froideur jusque-là, se mit cette fois à pousser des cris. Elle appela un voiturier dont nous avions déjà utilisé les services, l'envoya acheter une plaque funéraire en bois, puis vint me demander d'y écrire quelque chose. Sur ce côté, j'écrivis « Sigille le chat ». Et de l'autre, de cette terre, qui sait, un éclair jaillira dans le soir naissant. Le voiturier demanda s'il pouvait l'enterrer tel quel. La servante se moqua de lui en disant « Parce que vous voudriez qu'on l'incinère, peut-être ?» À leur tour, les enfants se montrèrent pleins d'égards pour le chat. Ils mirent des fleurs de chaque côté de la plaque funéraire, des gerbes de l'espédèse dans des flacons de verre. Ils remplirent d'eau un bol qu'ils déposèrent devant la tombe. Les fleurs et l'eau furent renouvelées le lendemain, le surlendemain encore. Le troisième jour, en fin de journée, ma fille, qui va sur ses 4 ans, je me trouvais à ce moment dans mon bureau et je regardais à la fenêtre. S'approcha toute seule et vint se planter devant la petite tombe, où elle resta un moment à contempler la plaque en bois blanc. Bientôt, elle sortit une petite palette à riz, versa dessus l'eau du bol destinée au chat, et elle but. Et elle répéta son geste. Les gouttes d'eau, où se mêlaient les pétales des fleurs des Lespédèses, tombées dans le silence de la fin du jour, ont désaltéré nombre de fois la gorge enfantine d'Aiko. Le jour anniversaire de la mort du chat, ma femme ne manque jamais de disposer devant sa tombe un morceau de saumon et un bol de riz saupoudré de katsuobushi. Elle n'a jamais oublié une seule fois à ce jour. Simplement, ces derniers temps, au lieu d'aller dans le jardin, elle se contente, semble-t-il, de poser le tout sur la commode du chat Noma. Le faisant. Quelques personnes étaient réunies chez moi et nous causions autour du brasero quand un jeune homme fit brusquement irruption. Je n'avais jamais entendu prononcer son nom, jamais je ne l'avais rencontré, il m'était parfaitement inconnu. Il n'avait pas de lettre d'introduction et avait simplement prié la personne qui lui avait ouvert de le laisser entrer. Il parut au salon devant l'assistance réunie, tenant, à bout du bras, un faisan. Après les salutations d'usage, il déposa l'oiseau au milieu de la pièce, expliquant qu'il l'avait reçu de son pays natal et qu'il souhaitait m'en faire présent. Il faisait froid ce jour-là. Ensemble, nous avons dégusté le faisan qu'on avait fait cuire à la marmite. Au moment de l'accommoder, le jeune homme s'installa à la cuisine en nakama, le pluma lui-même, le coupa en morceaux, tapa sur les os. Il avait un petit visage allongé et sous un front pâle, il portait des verres très épais. Mais plus que sa myopie, plus que sa moustache brune, ce qui me frappa, c'était son nakama. Il était en soie de kokura, très voyant, avec de larges rayures, comme il est inconcevable d'en porter pour un étudiant ordinaire. Les mains posées bien à plat sur ce hakama, il expliqua qu'il était originaire de la région de Morioka. Une semaine plus tard, le jeune homme revint. Cette fois, il apportait un manuscrit. La qualité du texte laissait à désirer, et je lui ai dit sans réserve ce que j'en pensais. Il s'en alla, disant qu'il allait le refaire. Environ une semaine après, il se présenta avec des feuillets dans l'échancrure de son kimono. Ainsi, chaque fois qu'il venait, il ne manquait jamais de laisser, avant de prendre congé, quelques pages de lui. Il y eut même une fois un très long ouvrage qui faisait 3 volumes, mais c'était le plus mauvais de tout ce qu'il avait écrit. Une ou deux fois, j'ai proposé à une revue ce qui me semblait être le meilleur de sa production. Mais il n'a dû être publié qu'à la bienveillance d'un rédacteur, et apparemment il n'a pas touché un sou. C'est à cette occasion que j'ai appris les difficultés dans lesquelles il se débattait. Il disait qu'il avait l'intention de vivre désormais de sa plume. Un jour, il m'apporta une chose curieuse. C'était des chrysanthèmes séchées, dont on avait superposé un par un les pétales après les avoir durcis dans une sorte de fine pâte. Il m'expliqua que c'était ce qui remplaçait les minuscules sardines séchées, fines comme de la dentelle, chez les bouddhistes qui s'abstiennent de poisson. Le compagnon avec lequel il était venu s'empressa d'ébouillanter des légumes, et nous avons pris du saké pour accompagner ses mets. Une autre fois, il m'apporta un brin de muguet artificiel, tout en m'expliquant que c'était sa sœur qui l'avait fait, il enroulait autour de ses doigts le fil de fer qui formait la branche. J'ai appris, alors, pour la première fois, qu'il habitait avec sa sœur cadette. Il louait une pièce au premier étage de la maison d'un marchand de bois et elle allait tous les jours prendre une leçon de broderie. La fois suivante, il sortit d'un papier journal un col beige cendré dont le nœud était orné d'un papillon brodé en blanc et il proposa de me le laisser si j'en avais l'usage. Yasuno me demanda de le lui donner et il partit en emportant le nœud. Le jeune homme vint d'autres fois encore. Il ne manquait jamais de me parler des paysages de son pays natal, des coutumes, des légendes, des cérémonies du temps jadis. Il me raconta que son père était un érudit en lettres chinoises. Il ajouta qu'il était très habile dans la gravure des sceaux. Sa grand-mère avait été au service d'un daimyo. Elle avait gagné la faveur du seigneur et, comme elle était native de l'année du singe, il lui offrait de temps en temps un objet en rapport avec cet animal. Il lui avait fait présent, entre autres, d'un dessin qui représentait un singe aux longs bras. Il promettait de l'apporter la fois suivante pour me le montrer, et il cessa de venir. Le printemps passa, l'été vint, et un jour où j'avais déjà commencé à oublier le jeune homme, ce jour-là la chaleur était telle que j'avais même du mal à lire, assis sans bouger au milieu du salon, pourtant à l'abri des rayons du soleil, avec pour tout vêtement un kimono non doublé. Il arriva à l'improviste. Comme d'habitude, il portait son nakama voyant et il essuyait avec soin la sueur qui perlait sans relâche sur son front pâle. Il me sembla quelque peu amaigri. Après de longues hésitations, il finit par me demander de lui prêter 20 yens. Il voulait être franc. Un de ses amis était tombé malade et il n'avait pas hésité à le faire hospitaliser. Mais il fallait de l'argent pour parer au plus pressé. Il s'était adressé à droite et à gauche, sans succès. Il s'était finalement résolu à frapper à ma porte. Telles étaient ses explications. J'interrompis ma lecture et je l'observais. Comme toujours, il était assis très correctement, les mains posées bien à plat sur les cuisses. Il disait d'une voix sourde « Je vous en prie. » « La famille de votre ami est-elle à ce point démunie ? » demandai-je. « Non, le problème n'était pas là, mais ils habitaient loin et ne pouvaient pas se rendre utiles en cas d'urgence. Voilà pourquoi ils s'adressaient à moi. » L'argent devait arriver de son pays natal d'ici une quinzaine de jours et il me rembourserait immédiatement. Je consentis à sa demande. Il sortit alors d'un carré d'étoffe un kakemono m'expliquant que c'était l'œuvre de Kazan dont il m'avait parlé une fois. Il le déroula devant moi. C'était un assez grand dessin. Je ne me rendais pas exactement compte de la qualité du travail. Je consultai une liste de sceaux. Mais je ne découvris sur la peinture ni signature ni cachet pouvant ressembler à ceux de Yatanabe Kazan ou encore de Yokoyama Kazan. Comme le jeune homme prenait congé en disant qu'il me le laissait, je refusais, l'assurant que ce n'était pas la peine, mais il se précipitait déjà hors de la maison. Le lendemain, il revint pour prendre l'argent. De ce jour, je n'eus plus aucune nouvelle. Les 15 jours au bout desquels il avait promis de me rembourser s'écoulèrent sans que même se montre son ombre. je me dis que je m'étais laissé abuser. Le kakemono représentant le singe resta suspendu au mur et l'automne arriva. J'avais enfilé un vêtement doublé et j'étais plein de résolution, fermement décidé à me mettre au travail, lorsque Nagatsuka vint une fois de plus pour m'emprunter de l'argent. Cela me causait un désagrément infini d'avoir ainsi à prêter de l'argent tout le temps. Me souvenant brusquement du jeune homme, je déclarai à Nagatsuka que si cela lui disait d'aller récupérer l'argent que j'avais prêté, je lui prêterais la somme dont il avait besoin. Il se grattait la tête, hésitait. Au bout d'un moment, il prit son parti et me déclara qu'il y allait de ce pas. J'écrivis pour demander qu'on remette au porteur de la lettre l'argent que j'avais prêté l'autre jour. Je joignis le dessin du singe et je remis le tout à Nagatsuka. Le lendemain, Nagatsuka revint en voiture. Il s'empressa de sortir de l'échancrure de son kimono une lettre qu'il me tendit. Tout de suite, je compris qu'il s'agissait ni plus ni moins de ma propre missive, celle que j'avais rédigée la veille. Elle n'était pas décachetée. Je lui demandai alors pourquoi il ne s'était pas rendu chez le jeune homme. Des plis barrèrent son front et il m'avoua qu'il y était bien allé, mais qu'il n'avait pu se résoudre à s'acquitter de la commission, tant leur situation était tragique. Le logement était sale, la femme faisait de la couture, l'intéressé était malade. Ce n'était vraiment pas le moment de venir réclamer de l'argent et je leur ai dit qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter. Je les ai tranquillisés et j'ai seulement rendu la peinture avant de m'en aller. Voilà. Je ne pus m'empêcher d'exprimer mon étonnement par un léger « Eh bien ?» Le lendemain, je recevais une carte du jeune homme. Il était bien rentré en possession du kakemono et s'excusait de m'avoir menti. La carte alla rejoindre d'autres papiers que je rangeais dans une corbeille. Et une fois de plus, j'en vins à oublier le jeune homme. Puis l'hiver revint, et comme à l'accoutumée, je passai un jour de l'an agité. Alors que, profitant d'un intervalle entre deux visites, je saisissais l'occasion de travailler, la servante vint déposer un paquet enveloppé dans du papier huilé. Il était arrondi et faisait un bruit sourd. L'expéditeur était précisément ce jeune homme qui était sorti de ma mémoire. Je déballai, et du papier journal qui l'entourait sortit un faisan doré. Une lettre l'accompagnait. Elle disait « Des circonstances diverses m'ont amené à retourner dans ma province natale. Je compte vous rendre l'argent que vous avez eu la bonté de me prêter lors de mon passage dans la capitale vers le mois de mars. » Le papier, durci par le sang de l'oiseau, ne fut pas facile à décoller. Justement, c'était un jeudi, et quelques jeunes gens devaient se réunir à la maison pour y passer la soirée. Rassemblés autour d'une grande table, nous avons mangé ensemble le faisan qui mijotait dans une marmite. Et j'ai souhaité de tout cœur le succès du jeune homme pâle, vêtu d'un akama voyant en soie de kokura. Après le départ de mes hôtes, j'ai écrit un mot de remerciement au jeune homme et j'ai ajouté qu'il n'avait plus à s'inquiéter à propos de l'argent que je lui avais prêté l'an passé.